France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, le journal avec Antoine Mercier, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Emmanuel Macron présente l'organigramme de son mouvement En Marche. L'ancien ministre des Finances renouvelle son souhait d'être au rendez-vous de 2017 et portant des idées progressistes suivies de cette conférence de presse ce matin avec Ludovic Piétenu. Pendant ce temps, Manuel Valls, qui a pris une nouvelle fois ses distances avec le chef de l'État, l'exercice du pouvoir, dit-il, doit être assorti du respect du secret des échanges. Nous l'entendrons. Plus de 66 000 chômeurs qui ont quitté les listes de Pôle emploi en septembre. Oui, la courbe du chômage a bien été inversé, déclare à l'instant le porte-parole du gouvernement, analyse de Maxime Fayol dans cette édition. Les unités d'élite irakiennes ne seraient plus qu'à 5 ou 6 kilomètres de Mossoul. Leur commandement affirme maintenant attendre de se coordonner avec les forces des autres fronts pour lancer l'assaut donc sur la ville. Correspondance sur place avec Philippe Randé. Est-ce le début de la fin pour la CPI après le Burundi et l'Afrique du Sud? Un troisième pays africain, la Gambie, annonce son intention de quitter la Cour pénale internationale. Analyse avec Valentine Letès, l'invitée de l'abécédaire de la campagne, à la lettre P comme pouvoir, Nathalie Kosciusko-Morizet, candidate à la primaire de la droite et du centre. Et puis dans la dernière partie de la grande table, Olivia Jasbert.
C'est une enquête menée dans 4 grandes prisons de France par un sociologue de terrain, directeur d'études par ailleurs à l'EHESS, spécialiste de l'islam et de la question carcérale. Il s'appelle Farhad Khosrokavar et il signe un ouvrage somme sur les prisons, rempli de témoignages de tous les côtés des barreaux. Prisons de France, violence, radicalisation, déshumanisation, qu'est-ce que la prison dit de notre société, à retrouver à partir de 12h55.
L'incertitude d'une nouvelle candidature Hollande attise vraisemblablement la rivalité Valls-Macron, tandis que l'ancien ministre des Finances donnait ce matin une conférence de presse pour présenter l'organigramme de son mouvement En Marche. Le Premier ministre prenait une nouvelle fois ses distances avec le chef de l'État, tout en défendant le bilan du quinquennat Hollande. Ce matin, donc, c'était sur France Inter, Manuel Valls s'est démarqué du président en affirmant que l'exercice du pouvoir devait être assorti du respect du secret des échanges. On l'écoute.
J'ai le plus profond respect à l'égard du président de la République. Ce que j'ai à dire au président de la République, je lui dis directement. Parce que je pense que l'exercice du pouvoir, c'est l'intimité. C'est le respect de la confidence. C'est le respect, bien sûr, du secret. Et ce qu'un Premier ministre a à dire au président de la République, le président de la République, dont chacun s'accorde à dire et à penser qu'il a été digne et à la hauteur de la situation quand il y a eu les attentats, à la fois auprès des victimes, vis-à-vis des Français, encore il y a quelques jours à Nice, son discours, bien sûr, au Congrès, rassemblant les Français, qu'il a été à la hauteur de la situation quand il a engagé nos armées au Mali, à la hauteur de la situation quand il a sauvé la Grèce qui était menacée de sortie de l'euro. Donc, ce que j'ai à dire au président de la République, je ne dis pas sur une antenne, je lui dis directement.
Voilà, pour cet éloge en demi-teinte du président de la République par son Premier ministre, Manuel Valls, était avec Patrick Cohen ce matin. Pendant ce temps, l'autre prétendant à gauche, l'un des autres, Emmanuel Macron, poursuit sa marche à pas compter, puisque à quelques 200 mètres des jardins de l'Élysée, dans le 8e arrondissement de Paris, l'ancien ministre de l'économie renouvelait son souhait d'être au rendez-vous de 2017 en portant des idées progressiste. Il a donc dévoilé la structure de son mouvement, fort de 1500 comités locaux. Ludovic Piétenu, bonjour.
Bonjour Antoine.
Dans cet organigramme, il y a peu de politique de premier plan en tout cas, mais au contraire, apparemment, une recherche du renouvellement, du rajeunissement.
Oui, seulement 3 parlementaires, tous socialistes. Le député du Finistère, Richard Ferrand, secrétaire général du mouvement, qui avait été le rapporteur de la loi Macron, la sénatrice de Paris, Barisa Chiari, et le député de la Manche, Stéphane Travers, une équipe de 10 délégués à parité, 100 référents départementaux, 1500 comités locaux, une moyenne d'âge de 45 ans, un quart d'entre eux sont des élus, 60% ne se sont jamais engagés politiquement, avec 90 000 adhérents revendiqués, dit Richard Ferrand, nous sommes en bonne voie pour devenir le premier mouvement politique de France. Il reste encore du chemin, mais la dynamique est là, c'est vrai, en comparaison aux partis politiques traditionnels qui connaissent une forte décrue du nombre de leurs militants, parce que sans structure, Antoine, il ne peut pas y avoir de prétention quelle qu'elle soit, explique Emmanuel Macron. Il tient là depuis ce matin le moteur nécessaire à sa marche vers l'Élysée et tout le bruit autour ne l'intéresse pas.
Les vicissitudes du moment ne sont pas de nature à modifier notre avancée. On ne peut pas prétendre refonder sur des ambiguïtés qu'on voudrait reproduire. J'entends les appels à la réconciliation de parfois ceux qui ont jeté l'opprobre ou divisé. Mais ils sont faits sur, à nouveau, la base de grandes confusions, d'idées non partagées, d'expériences de divorces successifs.
N'en jetez plus, vous avez entendu l'avis tranché de l'ancien ministre de l'économie. Manuel Valls a jeté l'opprobre, il a divisé. On savait Emmanuel Macron émancipé, il le confirme encore ce matin. Enfin, d'un mot, au-delà d'une organisation, l'autre nerf d'une campagne, c'est l'argent. Jusqu'à présent, 6400 donateurs et 2 700 000 euros récoltés pour En Marche. Emmanuel Macron va chercher l'argent partout où il y en a. Il retournera demain à Londres, auprès des Français et des Argentiers de la City.
Ludovic Piétenu, merci beaucoup. Manuel Valls, qui a par ailleurs accusé ce matin Ségolène Royal d'affaiblir la parole de l'État en contredisant publiquement la décision du gouvernement de construire un aéroport controversé donc à Notre-Dame-des-Landes. Réponse ce matin de la ministre, au sortir même du Conseil des ministres, je ne polémique pas moi, je cherche des solutions. Fin de citation de Madame Royal. La publication de bons chiffres pour l'emploi suscite une éclaircie sans doute pour François Hollande, dont il compte profiter ce soir à l'occasion d'un hommage à François Mitterrand pour le 100e anniversaire de sa naissance. Il y a plus de 66 000 chômeurs qui ont effectivement quitté les listes de Pôle emploi en septembre. C'est la plus forte baisse mensuelle depuis 20 ans. Le chef de l'État y voyait hier le fruit de sa politique. La ministre du Travail affirmait que 10 000 personnes sortent chaque mois en moyenne de la catégorie A de Pôle emploi. Oui, la courbe est bien inversée, dit à l'instant le porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll. Bonjour Maxime Fayolle.
Bonjour.
Alors comme toujours en la matière, il faut quand même un peu contextualiser les baisses ou les hausses d'ailleurs, en regardant à la fois toutes les catégories qui sont définies par Pôle emploi et aussi peut-être sur une durée un peu plus longue qu'un mois.
Et oui, parce que ces bons chiffres, ils suscitent des questions. La première, c'est comment parvient-on à une telle baisse ? Alors c'est vrai, il y a une reprise de l'activité pour certains chômeurs. Elle est parfois faible, au moins quelques jours par mois pour la moitié de ces 66 000 sortants. Il y a aussi des créations d'emplois puisque le nombre total d'inscrits à Pôle emploi diminue sur un mois. Mais, et c'est un gros mais Antoine, sur un an, le nombre d'inscrits toutes catégories confondues augmente lui de 2%. Et pour comprendre cette hausse, il faut se rappeler l'objectif de François Hollande en début d'année, envoyer 1 million de demandeurs d'emploi en formation d'ici fin 2016. L'astuce, c'est qu'un chômeur en formation quitte la catégorie A pour une autre catégorie, la D. Et quand on jette un coup d'œil à l'évolution de cette catégorie, on voit qu'elle augmente, elle, de 16% en un an. Mais alors, ces formations, est-ce qu'elles mènent à un emploi derrière ? Eh bien là encore, Pôle emploi donne des chiffres clairs sur les demandeurs d'emploi qui réintègrent les catégories ABC, c'est-à-dire peu ou pas d'activité, après une formation. Eh bien, ils sont en augmentation de 122% en un an. Signe que la formation s'est accrue, comme le voulait le chef de l'État, certes, mais qu'elle est avant tout un bon moyen pour sortir ces personnes de la catégorie A la plus médiatique et que les embauches à la clé sont encore faibles.
Maxime Fayolle, merci beaucoup pour cette analyse. On salue notre invitée, Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour.
Bonjour.
On va parler donc avec vous de la notion de pouvoir, notamment dans la séquence qui suivra sur l'abécédaire de campagne. Mais un petit mot là-dessus, parce qu'il y a contestation. Bon, il y a effectivement une baisse de la catégorie A. Est-ce qu'on peut parler d'amélioration, selon vous, en essayant d'être objectif ?
Mais Maxime Fayolle, je crois, a mis le doigt sur le point important. Parce que bon, les chiffres sont un peu meilleurs ce mois-ci, et moi je me réjouis toujours quand ils sont meilleurs. C'est une bonne nouvelle. Je préfère commenter des bons chiffres que des mauvais chiffres. Mais il faut comprendre ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière, c'est d'abord une forte dégradation depuis le début du quinquennat, donc quelques mois suffisent pas à inverser la tendance. Ce qu'il y a derrière aussi, c'est des changements de catégorie. Et votre journaliste tout à l'heure mettait le doigt sur le sujet. Est-ce que ces formations débouchent sur des emplois ?
Il vaut quand même mieux être en formation qu'au chômage complet.
C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est encore mieux si la formation débouche sur de l'emploi. Et moi, c'est un sujet dont j'aimerais qu'on parle dans cette campagne présidentielle. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent de la formation ? Qu'est-ce qu'on fait pour que dans un monde en pleine transformation, ceux qui n'ont pas eu toute leur chance du premier coup puissent avoir une deuxième chance ? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'on puisse changer de secteur ? Aujourd'hui, l'économie, la société sont en pleine transformation. Il y a des secteurs qui détruisent de l'emploi, il y a des secteurs qui créent de l'emploi. Il y a deux sujets. Comment on fait pour que la France bénéficie au mieux des secteurs qui créent de l'emploi ? Et ça, c'est la baisse des charges, c'est un certain nombre de transformations. Et puis comment on fait pour que chacun puisse se redonner des nouvelles chances quand il les a pas eues du premier coup? Et c'est toutes les formations. Et là-dessus, on n'est pas au rendez-vous. La formation professionnelle, aujourd'hui, c'est 32 milliards d'euros. Et vous regardez la façon dont ils sont dépensés. Ça va surtout vers les CSP+, vers les grandes entreprises, vers les gens qui ont déjà un boulot. C'est-à-dire que ça va pas vers les chômeurs, vers les jeunes et vers les PME, TPE.
Merci beaucoup. On vous retrouve donc à la fin de cette édition. Nathalie Kosciusko-Morizet, le président du Conseil européen reste encore optimiste. Il est midi maintenant, midi 30, alors que se referme le délai pour tenter de trouver un accord sur le traité de libre-échange avec le Canada. J'ai bon espoir que dans le courant de la journée, un accord puisse être trouvé, a dit Donald Tusk ce matin. Les entités fédérées belges et le gouvernement fédéral ont repris leur discussion pour tenter de définir une position unanime de la Belgique, mais il n'y a donc toujours pas d'accord pour le moment. Deux semaines après le début de l'opération pour reprendre Mossoul, les unités d'élite irakienne du contre-terrorisme ne seraient plus maintenant qu'à 5 ou 6 kilomètres de la ville. Leur commandant affirme vouloir se coordonner avec les autres forces des autres fronts avant de lancer l'assaut que l'on attend donc sur la ville de Mossoul. Au nord-est, les Peshmerga kurdes sont également proches de la ville, mais sur le front sud, eh bien, les forces fédérales ont encore du chemin à parcourir avant d'atteindre la banlieue de Mossoul. On retrouve sur place Philippe Randé. Comment se présente cet encerclement de Mossoul de façon très rapprochée, comme on le voit?
Nous avons pu avancer ce matin de plusieurs kilomètres avec les forces spéciales irakiennes, mais difficile de vous dire avec certitude à quelle distance exactement la Golden Division, la division or, se trouve de l'entrée de Mossoul. Car ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Mossoul est une ville de 2 millions d'habitants, plus grande que Paris en superficie. Du coup, il est compliqué de faire la différence entre la périphérie, les villages aux alentours et les premiers quartiers de la capitale autoproclamée du califat. Mais ce qui est évident, et ce que je peux vous confirmer, c'est que Mossoul se rapproche, la route que nous avons emprunté est un véritable champ de ruines parsemé de carcasses de voitures, de mines et de gravats. Aucun civil évidemment à l'horizon. Quelques tirs de snipers rappellent que les djihadistes du groupe État islamique sont juste devant. Les avions de la coalition survolent la zone, mais il semble que les forces spéciales irakiennes n'avancent plus pour l'instant sur les autres fronts, notamment celui de Bachika à l'est de Mossoul. Même statu quo, l'offensive des Peshmerga kurdes a été plusieurs fois retardée. Une offensive pour entrer dans Mossoul qui sera de plus en plus tendu, car ici tout le monde en est persuadé, plus Mossoul va se rapprocher, plus la résistance djihadiste sera féroce.
Philippe Randé en direct donc des environs de Mossoul. Merci beaucoup. Sur le front syrien, l'OTAN dit craindre que le groupe naval russe qui se dirige actuellement vers la Syrie ne serve à bombarder les civils qui sont toujours pris au piège de la ville, dans la ville d'Alep. Ils sont partis du nord de la Russie, ce groupe naval qui a franchi donc la Manche et qui se rapproche de Gibraltar et qui comporte notamment 8 bâtiments et le porte-avions amiral Kuznetsov, à bord duquel se trouvent des dizaines de chasseurs bombardiers et d'hélicoptères. À Paris, François Hollande annonce sa décision de prolonger jusqu'à la mi-décembre l'activité du groupe aéronaval français qui comporte le porte-avions Charles de Gaulle sur le théâtre irako-syrien, annonce faite ce matin à l'Élysée au terme du Conseil de défense. Est-ce le début de la fin pour la CPI après le Burundi et l'Afrique du Sud? Voilà donc un troisième pays africain qui devrait quitter la Cour pénale internationale. Le ministre gambien de l'information l'accuse, cette cour, de persécution envers les Africains, en particulier leurs dirigeants, alors qu'au moins, dit-il, 30 pays occidentaux ont commis des crimes de guerre depuis la création de cette juridiction, sans jamais être inquiété. Décision qui constitue un revers personnel aussi pour la procureure de la CPI, qui est de nationalité gambienne. Troisième défection qui aggrave évidemment cette crise de confiance entre la Cour et le continent africain et qui pourrait à terme peut-être même remettre en cause ses fondements même. Valentine Letès.
Oui, puisque les trois présidents africains qui ont annoncé leur retrait avancent tous le même argument. Cette juridiction est un tribunal caucasien de persécution pour humilier des personnes de couleur. Selon eux, les États occidentaux sont intouchables. Et c'est ce qui a d'ailleurs poussé la Gambie à changer radicalement d'avis sur la CPI en 5 mois. Sur les 10 enquêtes en cours du tribunal de La Haye, 9 ciblent le continent africain. Mais ces 3 départs et plusieurs autres annoncés ne signent pas pour autant la mort de la CPI. Toutes les juridictions internationales connaissent des hauts et des bas, c'est ce que disent les experts. Certains États du continent africain croient encore à son utilité. Exemple avec le Gabon et sa demande d'enquête concernant les violences post-électorales. En plus, sur les 124 pays qui ont ratifié le statut de Rome fondateur de la Cour. Seuls 34 sont africains. Rappelons aussi que la CPI existe pour les victimes des crimes de guerre et de génocide et non pour les chefs d'État au pouvoir. Enfin, la Cour pénale internationale est accusée depuis longtemps de chasse raciale, bien que sa procureure soit gambienne et que la juridiction envisage des enquêtes en Colombie, en Afghanistan, en Irak et en Palestine.
Merci Valentine Letès. Si les choses continuent d'évoluer au même rythme qu'actuellement, il faudra 170 ans pour connaître une véritable égalité des hommes et des femmes au travail. Ce sont les chiffres donnés ce matin par le Forum économique mondial qui publie donc son rapport sur la parité hommes-femmes. et femme, Hakim Kasmi.
Et Antoine, le constat est accablant puisque depuis 8 ans, les inégalités n'ont jamais été aussi importantes entre les femmes et les hommes. À commencer par les salaires, au niveau mondial, eh bien les femmes touchent 2 fois moins d'argent que les hommes et cela malgré de plus longues heures de travail. En France, eh bien il faut même savoir que la France arrive 134e sur les 144 pays pris en compte par le Forum économique. Quant à leur taux d'employabilité, il n'est que de 54% contre 81% pour les hommes. Le nombre de femmes occupant des postes à responsabilité reste lui aussi très faible. Un paradoxe quand on sait que le nombre de femmes diplômées à l'université est équivalent à celui des hommes, voire même supérieur. Et du coup, cela pourrait avoir des conséquences, car cela pourrait gâcher les talents et du coup, eh bien, avoir des conséquences sur la croissance économique mondiale. Mais au-delà du travail, le rapport prend aussi en considération le niveau d'enseignement, d'éducation donc, de santé et aussi d'émancipation politique des femmes. Sans surprise, les bons élèves sont les pays du Nord, à commencer par l'Islande qui arrive en tête, suivent ensuite la Finlande, la Norvège et la Suède. L'Islande où pourtant lundi dernier les femmes ont quitté symboliquement leur travail à 14h38 précisément pour dénoncer les inégalités salariales. Mais attention, la donne pourrait bien changer car le Rwanda arrive désormais en 5e position juste devant l'Irlande en termes d'inégalité et le Nicaragua arrive lui en 10e position juste devant la Suisse. Enfin, il faut savoir qu'en France, à partir du 1er janvier, les entreprises, notamment les grandes, auront d'avoir 40% de femmes dans leur conseil d'administration. Antoine, on est encore bien loin, car aujourd'hui, seulement 28% des femmes occupent les conseils d'administration des entreprises françaises.
Merci beaucoup. Hakim Kasmi, Nathalie Kosciusko-Morizet, est-ce que vous posez systématiquement la question sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes, notamment peut-être dans votre parti? Est-ce que ce n'est pas participer finalement aussi à la différence de traitement?
Écoutez, d'une certaine manière, c'est participer à la différence de traitement, mais je rejette quand même pas la question, et parce que je trouve que c'est important qu'on en parle. C'est important qu'on en parle et tous ces rapports, et puis on le sait tous, de toute façon, c'est un combat. En France, l'inégalité de salaire non justifiée, c'est-à-dire celle qu'on n'arrive pas à expliquer par les diplômes, c'est 16%. 16%, hein. Ça veut dire que pendant plus d'un mois et quelques, c'est comme si les femmes travaillaient gratuitement. Enfin, vous voyez, à partir de mi-novembre.
C'est comme ça, effectivement, ça fait.
Eh ben oui, ouais. Mais attendez, parce que c'est la réalité quand même. 16% non expliqué. Ça veut dire que c'est parfois plus, parce que parfois, il y a le fait qu'on n'est pas dans les mêmes fonctions, globalement, qu'on n'est pas. Mais 16% non expliqué. 16% qui est donc de la discrimination, du préjudice absolument pur. Et puis, il y a un autre élément, moi, qui m'a frappé dans ce rapport, quand on regarde de près, c'est que on nous dit que ça régresse au niveau mondial. C'est-à-dire que non seulement on est face à des inégalités persistantes, mais en fait, on est face à un mouvement de balancier, on est face à un reflux. Ça fait plusieurs années que la place des femmes, la considération, la situation, y compris financière, est en régression au niveau mondial.
On est déjà quasiment dans notre abécédaire de campagne. Stéphane Robert, la lettre P comme pouvoir.
Eh bien, on va poursuivre dans cette veine-là. Puisque, est-ce que vous considérez, Nathalie Kosciusko-Morizet, que l'exercice du pouvoir est aujourd'hui encore confisqué par les hommes? Je vais vous citer un responsable de votre parti, Les Républicains, qui me disait il y a quelques mois qu'il fallait que vous soyez candidate à la primaire de la droite, dite de la droite et du centre, parce que sinon on apparaîtrait comme un vieux parti de mâles blancs de plus de 50 ans. Ce qu'on est, me dit-il, mais il ne faut pas que ça se voit. Alors, est-ce que vous avez le sentiment d'être la caution féminine, caution de modernité de cette primaire?
Ah, le parti a du mal à s'ouvrir aux femmes. Mais heureusement, l'électorat est pas comme ça. C'est toute la différence. C'est un problème qui traverse les milieux de pouvoir en France. Hein. Ce serait d'ailleurs injuste de considérer que c'est seulement le parti, parce que ça traverse tous les milieux de pouvoir en France. Vous le trouvez dans le monde de l'entreprise privée, même si ça a plutôt évolué positivement. Vous le trouvez dans le monde des médias. Vous le trouvez dans le monde de l'université. On n'en parle pas assez. Voilà, les milieux de pouvoir en France sont assez fermés en général. Ils fonctionnent beaucoup sur le mode de la cooptation. Le mode de la cooptation, c'est de la cooptation qui se fait entre hommes. Et donc ils sont fermés aux femmes. Alors, c'est une bataille. Moi, c'est une bataille que j'ai cherché à mener dans le parti. J'ai été à un moment responsable de la réforme des statuts du parti. J'avais fait modifier les statuts, j'avais obtenu la modification des statuts pour qu'au bureau politique et à la commission d'investiture, la moitié des membres élus soient des femmes. Vous savez ce qui s'est passé? Il y a eu plein de membres cooptés. C'est-à-dire que la moitié des membres élus sont des femmes. J'ai pu passer cette réforme, mais on a coopté plein d'hommes. Et aujourd'hui encore, quand vous allez à la commission d'investiture, ou que vous allez au bureau politique, et en fait, vous voyez une proportion nettement plus importante d'hommes, Pourquoi ? Parce que c'est des membres cooptés. Voilà, ça reste une bataille. Après, moi je pense que c'est une bataille qui va être débordée par la modernité, parce qu'il y a un mouvement aujourd'hui dans la société qui tendrait, si on voulait faire un peu de sémantique, je dirais qu'il tend de plus en plus à opposer la puissance au pouvoir. Et il n'y a pas les mêmes effets de genre. C'est-à-dire que le pouvoir, c'est très vertical. C'est nos institutions, elles sont organisées sur un mode très représentatif et elles font la meilleure place à des symboles qui sont des symboles de pouvoir. Je vais te dire ce que tu vas faire, comment tu vas le faire. J'exerce un pouvoir et ça s'accompagne d'un certain nombre de symboles. Le pouvoir, c'est différent de l'autorité. On l'apprend par exemple au service militaire. Moi j'ai fait un service militaire, on apprend ça très vite. Il y a le pouvoir, donc il y a les galons, puis il y a l'autorité. Il y a celui qu'on suivra vraiment à la guerre. Le pouvoir, c'est pas la même chose que l'autorité. Et puis il y a un troisième truc, c'est la puissance. Où sont les énergies? Où sont les initiatives? Où est la créativité? Où est-ce que ça bouge? Et aujourd'hui, la puissance, elle est dans la société. Et moi je pense que l'enjeu de la politique aujourd'hui, c'est justement d'avoir un politique qui change de posture, qui alors qu'il était dans la quête de pouvoir, dans la quête des symboles, dans cette espèce de mouvement, de verticalité qui est celui de nos institutions, apprend à reconnaître où sont les énergies, où sont les initiatives, où est la créativité, pour lui faire la meilleure place, pour finalement laisser la puissance qui est aujourd'hui dans la société s'exprimer.
Mais du coup, alors, est-ce que la...
Enfin, moi, c'est comme ça qu'il est construit, mon programme.
Est-ce que
c'est
nos institutions sont encore adaptées?
Mais non, justement, c'est pour ça que je propose dans cette primaire une réforme institutionnelle. C'est qu'en fait, on a des institutions qui ont correspondu à un moment de notre histoire. Les institutions de la Ve République, elles ont bien du mérite, notamment celui de la stabilité. Mais enfin, elles sont complètement orthogonales à un monde qui, aujourd'hui, fonctionne de plus en plus sur des rythmes et des codes différents. Aujourd'hui, dans la société, on cherche l'approbation de ses pairs, beaucoup plus que l'évaluation de sa hiérarchie. Il y a des mouvements de désintermédiation dans tous les sens qui viennent bousculer beaucoup l'ordre pyramidal établi. On s'organise en communauté d'usage grâce au numérique. Hein, tout ça, c'est beaucoup le mouvement du numérique.
On est aussi à la recherche d'une forme de verticalité nouvelle aussi, peut-être, non ? Ou pas ?
Peut-être que du coup, ça nous manque. C'est possible que ça nous manque. Mais les mouvements, que ce soit dans le monde économique, parce que c'est pareil dans le monde économique, hein, que ce soit dans le monde économique ou dans la société aujourd'hui, ils sont vers plus d'horizontalité en quelque sorte. Et moi, je pense que le rôle du politique, du coup, il a changé. Il est plus... Même si on a parfois des attentes qui viennent de l'ancien monde, hein, on est tous paradoxaux avec ça. On a tous nos ambiguïtés. Mais je pense qu'aujourd'hui, le rôle du politique, il est plus de vous dire ce que vous devez faire, comment vous allez le faire. Il est de reconnaître où sont les énergies et de les accompagner. C'est ce que je disais tout à l'heure à propos du chômage sur la formation. Ça ne veut pas dire moins d'État partout. Ça veut dire un nouveau rôle pour l'État. Par exemple, aujourd'hui, je pense que le rôle de l'État, c'est beaucoup de se poser la question de la formation. De savoir comment vous allez pouvoir développer votre autonomie. Vous allez pouvoir rencontrer les deuxièmes chances qui vous ont parfois fait défaut au moment de saisir les premières. Quoi.
Dans ces conditions, vous considérez que le pouvoir, ça ne s'incarne pas? C'est ce qui est reproché à François Hollande, de ne pas incarner le pouvoir. Mais ça ne doit pas s'incarner, selon vous?
Je pense qu'on a moins besoin d'incarnation aujourd'hui que de cette nouvelle posture que je disais, qui est celle du facilitateur.
Mais qu'est-ce que vous faites en tant que femme politique par rapport à ces mouvements, à cette puissance que vous dites dans la société? Vous la mettez en œuvre,
Je fais des propositions pour qu'elle puisse s'exprimer. Par exemple, je propose une réforme institutionnelle avec transformation profonde, la suppression du Conseil économique et social qui aujourd'hui est supposé représenter la société, mais qui en fait est resté justement dans ce mode très représentatif, qui à mon avis fonctionne pas du tout, pour le remplacer par une Chambre des citoyens dont sont membres de fait tous ceux qui sont inscrits sur les listes électorales, qui peuvent s'associer pour porter des propositions de loi, avec des propositions qui, à partir d'un certain nombre de signataires, sont automatiquement étudiées à l'Assemblée nationale pour pouvoir donner d'autres moyens d'expression à la société que juste une élection majeure nationale tous les 5 ans.
Toute dernière question, courte.
L'assertion de Max Weber, le pouvoir politique, c'est le monopole de la violence légitime, c'est toujours valable, ça ou pas, dans ces conditions?
Mais c'est-à-dire que la question est de moins en moins celle du pouvoir politique et de plus en plus celle de la puissance de la société. Donc peut-être que Max Weber, ça vaut pour avant, mais la question c'est aujourd'hui à quoi ça doit laisser place. Je peux, si vous voulez, pour me faire comprendre peut-être mieux, on peut décaler ça dans l'ordre économique ou sur la question des données. Dans le temps, le pouvoir, il était fondé sur la rétention d'informations. Tout le monde sait ça, les administrations, celui qui avait du pouvoir, c'était celui qui avait de l'info et qui la partageait pas, qui la gardait, qui l'accaparait, qui la récupérait, parfois par des moyens abusifs. Aujourd'hui, le monde, il fonctionne plus comme ça, on la partage l'information. Les jeunes générations, elles sont très surprises quand elles arrivent dans les entreprises, qu'elles voient ce système de rétention d'information. L'information, ça se partage, et celui qui a de la puissance, plus question de pouvoir, celui qui a de la puissance, c'est celui qui la partage avec le réseau le plus large possible,
qui sait la traiter,
qui sait en faire quelque chose. Et non, François Hollande, il est juste à côté de la plaque, c'est encore un troisième truc, ça.
Merci beaucoup, Nathalie Kosciusko-Morizet, d'avoir accepté notre invitation. Un mot du temps aujourd'hui, gris sur une grande moitié nord du pays, perturbé sur le sud-est, température 12 à 26 degrés, 26 degrés en Corse, encore aujourd'hui. Fin de cette édition réalisée avec Brice Garcia, prochain journal 18h, Anne Fauquemberg.